Chapitre 4. Le monde comme perception. Par le penser, naissent les concepts et les idées. Ce qu'est un concept ne peut pas être dit avec des mots. Les mots peuvent seulement attirer l'attention de l'être humain sur le fait qu'il a des concepts. Lorsque quelqu'un voit un arbre, son pensée réagit à son observation. À l'objet vient s'ajouter un pendant idéal, et il considère que l'objet et le pendant idéal vont ensemble. Quand l'objet disparaît de son champ d'observation, il n'en reste que le pendant idéal. Ce dernier est le concept de l'objet. Plus notre expérience s'étend, plus la somme de nos concepts s'accroît. Mais les concepts n'existent en aucune façon isolés les uns des autres. Ils se réunissent pour former un tout structuré selon des lois. Le concept d'organisme vient par exemple s'unir aux autres concepts d'évolution selon une loi, de croissance. D'autres concepts formés en relation avec des objets isolés se rassemblent pour n'en former plus qu'un. Tous les concepts de Lyon que je me forme se rassemblent dans le concept d'ensemble de Lyon. De cette façon, les concepts isolés s'unissent dans un système cohérent de concepts où chacun a sa place particulière. Les idées ne sont pas qualitativement différentes des concepts. Ce sont seulement des concepts plus riches de contenu, plus pleins et d'acceptions plus larges. Il me faut attacher une valeur particulière à ce que l'on prenne ici en considération le fait que j'ai indiqué comme point de départ le penser et non les concepts et les idées, qu'il faut d'abord acquérir par le penser. Ceci présuppose l'existence du penser. On ne peut donc pas reporter tout simplement sur les concepts ce que j'ai dit de la nature du penser, qui repose en elle-même et n'est déterminée par rien. J'en fais ici la remarque expresse parce que c'est en ceci que consiste ma divergence avec Hegel. Celui-ci pose le concept comme l'élément premier et originel. Le concept ne peut pas être tiré de l'observation. Ceci ressort déjà du fait qu'au cours de sa croissance, l'être humain ne se forme que lentement et progressivement les concepts qui vont avec les objets qui l'entourent. Les concepts sont ajoutés à l'observation. Un philosophe contemporain très lu, Herbert Spencer, décrit de la façon suivante le processus que nous accomplissons dans notre esprit vis-à-vis de l'observation. Par un jour de septembre, en vous promenant dans les champs, vous entendez à quelques pas de vous un frôlement. Et, portant les yeux du côté d'où vient ce bruit, vous y voyez les herbes agitées. Vous vous dirigez vers cet endroit pour apprendre la cause de ce mouvement. À votre approche, une perdrix s'enfuit dans un fossé. Voilà votre curiosité satisfaite et vous avez ce que vous appelez une explication de ce qui vous est apparu. Qu'est-ce qu'une explication ? Qu'est-ce qu'un signe ? Durant toute la vie, nous avons eu des expériences sans nombre du dérangement de petits corps en repos, survenant à la suite du mouvement d'autres corps parmi eux. Nous avons généralisé la relation entre ces dérangements et ces mouvements, et nous considérons un dérangement particulier comme expliqué si nous trouvons qu'il présente un cas de la même relation. Herbert Spencer, Les premiers principes, 1871. À y regarder de près, la chose se présente tout autrement que dans cette description. Lorsque j'entends un bruit, je cherche tout d'abord pour cette observation le concept. C'est seulement l'appréhension de ce concept qui me fait aller au-delà du bruit. Celui qui ne réfléchit plus entend tout simplement le bruit et s'en satisfait. Mais par ma réflexion, il est clair pour moi que j'ai à concevoir un bruit comme un effet. C'est donc seulement lorsque je relis le concept d'effet et la perception du bruit que je suis incité à dépasser l'observation isolée et à chercher la cause. Le concept d'effet suscite celui de cause. Je cherche alors l'objet qui constitue la cause, que je trouve sous la forme de la perdrix. mais je ne pourrai jamais trouver ces concepts de cause et d'effet par la simple observation, même si elle s'étendait à autant d'objets que l'on voudra. L'observation provoque le penser, et c'est seulement celui-ci qui m'indique la voie qui permet de relier l'expérience isolée à une autre. Lorsqu'on exige d'une science strictement objective qu'elle n'emprunte son contenu qu'à l'observation, il faut exiger en même temps qu'elle renonce à tout penser. Car par sa nature même, celui-ci va au-delà de ce qui est observé. Il y a lieu maintenant de passer du penser à l'être qui pense. Car c'est par celui-ci que le penser est lié à l'observation. La conscience humaine est le théâtre où le concept et l'observation se rencontrent et se relient l'un à l'autre. Mais par là est en même temps caractérisée cette conscience humaine. Elle est le médiateur entre le penser et l'observation. Dans la mesure où l'être humain observe un objet, celui-ci apparaît comme donné. Dans la mesure où il pense, il s'apparaît à lui-même comme agissant. Il considère ce qui est devant lui en tant que l'objet et lui-même en tant que le sujet qui pense. Parce qu'il dirige son pensée sur l'observation, il a conscience des objets. Parce qu'il dirige son pensée sur lui-même, il a conscience de lui-même ou conscience de soi. La conscience humaine doit nécessairement être en même temps conscience de soi, parce que c'est une conscience pensante. Car lorsque le penser dirige son regard sur sa propre activité, il a pour objet son entité la plus profondément personnelle, donc son sujet. Mais il ne faut néanmoins pas négliger le fait que nous ne pouvons nous déterminer en tant que sujet et nous opposer aux objets qu'à l'aide du penser. C'est pourquoi il ne faut jamais concevoir le penser comme une activité purement subjective. Le penser est au-delà du sujet et de l'objet. Il forme ces deux concepts de la même manière que tous les autres. Lorsqu'en tant que sujet pensant, nous rapportons donc le concept à un objet, nous n'avons pas le droit de concevoir ce rapport comme quelque chose de purement subjectif. Ce n'est pas le sujet qui établit le rapport, mais le penser. Le sujet ne pense pas parce qu'il est un sujet. Au contraire, il s'apparaît en tant que sujet parce qu'il est capable de penser. L'activité que l'être humain exerce en tant qu'être pensant n'est donc pas une activité purement subjective, mais une activité qui n'est ni subjective ni objective, une activité qui va au-delà de ces deux concepts. Je n'ai jamais le droit de dire que mon sujet individuel pense. Celui-ci vit bien plutôt lui-même de par la grâce du penser. Le penser est de ce fait un élément qui me conduit au-delà de mon soi et me relie aux objets. Mais en même temps, il m'en sépare en me plaçant face à eux en tant que sujet. C'est là-dessus que repose la double nature de l'être humain. Il pense et embrasse ainsi lui-même et le reste du monde, mais il doit en même temps, au moyen du penser, se déterminer lui-même en tant qu'individu qui est face aux choses. Le pas suivant sera de nous poser maintenant cette question. Comment se fait-il que cet autre élément, que nous avons jusqu'ici désigné seulement du nom d'objet de l'observation, et qui rencontre le penser dans la conscience, vienne dans cette dernière ? Pour répondre à cette question, nous devons éliminer de notre champ d'observation tout ce qui a déjà été introduit par le penser. Car chacun de nos contenus de conscience se trouve toujours d'emblée imprégné de concepts de la façon la plus diverse. Nous devons nous représenter un être doté d'une intelligence humaine parfaitement développée qui naîtrait du néant et se placerait face au monde. Ce qu'il percevrait, avant de mettre en activité le penser, c'est le contenu de l'observation à l'état pur. Le monde ne présenterait à cet être qu'un pur agrégat sans cohésion d'objets de la sensibilité. Couleurs, sons, sensations de pression, de chaleur, de goût, d'odorat, puis sentiments de plaisir et de déplaisir. Cet agrégat est le contenu de l'observation pure, dépourvue de pensée. En face se tient le penser qui est prêt à déployer son activité s'il se trouve un point d'appui qui y soit propre. L'expérience enseigne sans tarder qu'il s'en trouve un, le penser est en mesure de tendre des fils d'un élément de l'observation à l'autre. Il relie à ces éléments certains concepts et les met de ce fait dans une certaine relation. Nous avons déjà vu plus haut comment un bruit qui vient à nous est uni à une autre observation, par le fait que nous désignons celui-là comme l'effet de celle-ci. Si maintenant nous nous souvenons qu'il ne faut absolument pas considérer l'activité du penser comme subjective, nous ne serons pas non plus tentés de croire que ces rapports qui sont établis par le penser ont une valeur purement subjective. Il va s'agir maintenant de chercher par la réflexion pensante le rapport qu'a le contenu immédiatement donné de l'observation, qui a été indiqué plus haut, avec notre sujet conscient. Étant donné les hésitations de l'usage de la langue, il me paraît nécessaire de m'entendre avec mon lecteur sur l'usage d'un mot qu'il me faut employer dans ce qui suit. J'appellerai perception les objets immédiats de la sensibilité que j'ai nommés plus haut, dans la mesure où le sujet conscient en prend connaissance par l'observation. Je ne désignerai donc pas de ce nom le processus de l'observation, mais l'objet de cette observation. Je ne choisis pas le terme « sensation », parce que celui-ci a en physiologie une signification précise, qui est plus restreinte que celle de mon propre concept de perception. Je peux bien appeler un sentiment en moi-même « perception », mais non « sensation » au sens de la physiologie. Même de mon sentiment, je n'ai connaissance que par le fait qu'il devient pour moi « perception ». Et la façon dont nous avons connaissance de notre pensée par l'observation est d'une nature telle que notre pensée aussi, nous pouvons l'appeler perception lorsqu'il apparaît pour la première fois à notre conscience. L'homme naïf considère ses perceptions, au sens où elles lui apparaissent immédiatement, comme des choses qui ont une existence entièrement indépendante de lui-même. Lorsqu'il voit un arbre, il croit tout d'abord que celui-ci se trouve là-bas, à l'endroit où il dirige son regard, sous la forme qu'il voit, avec les couleurs qu'on sait parties, etc. Lorsque ce même homme voit le soleil apparaître le matin à l'horizon sous la forme d'un disque et qu'il suit des yeux la course de ce disque, il est d'avis que tout cela existe et se déroule de la façon, en soi, dont il l'observe. Il en reste à cette croyance jusqu'à ce qu'il soit confronté à d'autres perceptions qui contredisent celle-là. L'enfant, qui n'a pas encore l'expérience des distances, essaye d'attraper la lune et ne rectifie ce qu'il avait tenu pour réel au premier coup d'œil que lorsqu'une deuxième perception se trouve en contradiction avec la première. Tout élargissement du cercle de mes perceptions m'oblige à rectifier mon image du monde. Ceci se manifeste dans la vie quotidienne tout autant que dans l'évolution spirituelle de l'humanité. L'image que les anciens se faisaient du rapport de la Terre au Soleil et aux autres corps célestes dut être remplacée par une autre par Copernic, parce qu'elle ne concordait pas avec des perceptions qui étaient inconnues précédemment. Lorsque le docteur Franz eut opéré un aveugle né, celui-ci dit qu'avant son opération, il s'était fait de la taille des objets une toute autre image par les perceptions de son sens du toucher. Il lui fallut rectifier les perceptions de son toucher par les perceptions de sa vue. D'où vient que nous soyons ainsi contraints à ces constantes rectifications de nos observations? Une réflexion simple apporte la réponse à cette question. Lorsque je me trouve au bout d'une allée, les arbres m'apparaissent plus petits et plus rapprochés à l'autre bout, qui est éloigné de moi, que là où je me trouve. Mon image de perception devient autre chose lorsque je change d'endroit à partir duquel je fais mes observations. Sous la forme où elle m'apparaît, elle dépend donc d'une détermination qui n'est pas attachée à l'objet, mais qui m'est imputable à moi qui exerce mon activité de perception. Pour une allée, l'endroit où je me trouve est totalement indifférent. Mais l'image que j'en ai en dépend essentiellement. Il en est de même indifférents au soleil et au système des planètes que les êtres humains les regardent à partir de la Terre. Mais l'image de perception qui se présente à eux est déterminée par cette demeure qui est la leur. Cette dépendance de l'image de perception par rapport à notre lieu d'observation est celle qui est la plus facile à déceler. La chose devient déjà plus difficile lorsque nous découvrons la dépendance de notre univers de perception par rapport à notre organisation physique et spirituelle. Le physicien nous montre qu'à l'intérieur de l'espace où nous entendons un son se produisent des vibrations de l'air, et que le corps où nous cherchons l'origine du son présente lui aussi un mouvement vibratoire de ses parties. Nous ne percevons ce mouvement comme un son que si nous avons une oreille normalement constituée. Sans celle-ci, l'univers entier resterait pour nous éternellement muet. La physiologie nous enseigne qu'il existe des êtres humains qui ne perçoivent rien de la magnifique splendeur colorée qui nous entoure. Leur image de perception ne présente que des nuances de clair et de sombre. D'autres ne perçoivent pas telle couleur particulière, par exemple le rouge. Cette nuance de couleur manque à leur image du monde et celle-ci est pour cette raison effectivement autre que celle de l'homme du commun. J'aimerais appeler mathématique la dépendance de mon image de perception par rapport à mon lieu d'observation, qualitative, la dépendance par rapport à mon organisation. Par celles-là sont déterminés les rapports de grandeur et les distances de mes perceptions entre elles, par celles-ci, leur qualité. Que je vois rouge une surface rouge, cette détermination qualitative dépend de l'organisation de mon œil. Mes images de perception sont donc tout d'abord subjectives. La connaissance du caractère subjectif de nos perceptions peut facilement conduire à douter par principe qu'un quelconque élément objectif constitue le fondement de celle-ci. Si nous savons qu'une perception, par exemple celle de la couleur rouge ou d'un son particulier, n'est pas possible sans que notre corps soit organisé de façon bien précise, on peut en venir à cette croyance que cette perception n'existe pas indépendamment de notre organisme subjectif, que sans cet acte du percevoir, dont elle est l'objet, elle n'a aucun mode d'existence. Cette opinion a trouvé, en George Berkeley, un représentant classique. Il était d'avis qu'à partir du moment où l'être humain est devenu conscient de la signification du sujet, pour la perception, il ne peut plus croire à un monde qui existerait sans l'esprit conscient. Il dit: il y a des vérités qui nous sont si proches et qui sont si évidentes à l'esprit qu'un homme n'a qu'à ouvrir les yeux pour les voir. Telle est, me semble-t-il, celle-ci qui est importante, à savoir: tout le cœur du ciel et tout ce qui meuble la terre, en un mot, tous ces corps qui constituent l'imposant cadre du monde n'ont aucune subsistance hors d'un esprit. Leur essence, leur être, consiste à être perçus ou connus. Et par conséquent, aussi longtemps qu'ils ne sont pas réellement perçus par moi, ou qu'ils n'existent ni dans mon esprit ni dans celui d'une autre créature, il faudra, ou bien qu'ils n'aient aucune existence du tout, ou bien qu'ils subsistent dans l'esprit de quelque être éternel. George Berkeley, œuvre 1985 pour la traduction française aux presses universitaires de France. Pour cette vue des choses, il ne reste plus rien que la perception lorsqu'on fait abstraction du fait qu'elle est perçue. Il n'y a pas de couleur lorsqu'aucune couleur n'est vue, pas de son lorsqu'aucun son n'est entendu. L'étendue, la forme et le mouvement existent tout aussi peu que la couleur et le son en dehors de l'acte de perception. Nous ne voyons nulle part l'étendue ou la forme seule, mais celles-ci sont toujours associées à la couleur ou à d'autres qualités dépendant incontestablement de notre subjectivité. Si ces dernières disparaissent avec notre perception, ce doit être aussi le cas pour les premières qui leur sont liées. À l'objection que même si la figure, la couleur, le son, etc., n'ont pas d'autre existence qu'à l'intérieur de l'acte de perception. Il doit cependant exister des choses qui sont là sans la conscience et auxquelles sont semblables les images de perception consciente. Le point de vue qui a été décrit répond en disant qu'une couleur ne peut être semblable qu'à une couleur. Une figure ne peut être semblable qu'à une figure. Nos perceptions ne peuvent être semblables qu'à nos perceptions, mais à aucune espèce d'autre chose. Ce que nous nommons un objet n'est non plus rien d'autre qu'un groupe de perceptions qui sont reliées d'une façon déterminée. Si j'ôte à une table la forme, l'étendue, la couleur, etc., bref, tout ce qui n'est que ma perception, il ne reste plus rien. Si l'on va jusqu'au bout de ce que contient cette vue des choses, on en arrive à cette affirmation. Les objets de mes perceptions n'existent que par moi, et même à vrai dire que dans la mesure et aussi longtemps que je les perçois. Ils disparaissent avec le percevoir et n'ont sans celui-ci aucun sens. Mais en dehors de mes perceptions, je n'ai connaissance d'aucun objet et ne peux avoir connaissance d'aucun. Il n'y a rien à objecter à cette affirmation aussi longtemps que je me contente de prendre très généralement en compte le fait que la perception est déterminée en partie par l'organisation du sujet que je suis. Mais la chose se présenterait d'une façon fondamentalement autre si nous étions en mesure d'indiquer quelle est la fonction de notre percevoir dans la genèse d'une perception. Nous saurions alors ce qui se passe dans la perception pendant le percevoir et pourrions alors déterminer ce qui doit déjà être en elle avant qu'elle soit perçue. Notre réflexion se trouve ainsi détournée de l'objet de la perception vers le sujet de celle-ci. Je ne perçois pas seulement d'autres objets, mais je me perçois moi-même. La perception de moi-même a tout d'abord ce contenu. Je suis l'élément permanent face aux images de perception qui vont et viennent sans arrêt. La perception du moi peut toujours surgir dans ma conscience pendant que j'ai d'autres perceptions. Quand je suis plongé dans la perception d'un objet donné, je n'ai temporairement conscience que de celui-ci. À cela peut alors venir s'ajouter la perception de mon moi. Je ne suis alors plus seulement conscient de l'objet, mais aussi de ma personnalité qui est face à l'objet et qui l'observe. Je ne me contente pas de voir un arbre, mais je sais aussi que je suis celui qui le voit. Je m'aperçois aussi qu'il se passe en moi quelque chose pendant que j'observe l'arbre. Quand l'arbre disparaît de mon horizon, il subsiste pour ma conscience un reste de ce processus, une image de l'arbre. Cette image s'est unie à mon moi pendant mon observation. Mon soi s'est enrichi, son contenu s'est accru d'un nouvel élément. J'appelle cet élément ma représentation de l'arbre. Je ne serais jamais dans la situation de parler de représentation si je n'en faisais pas l'expérience dans la perception de mon moi. Les perceptions iraient et viendraient. Je les laisserais défiler devant moi. C'est seulement parce que je perçois mon soi et que je m'aperçois que son contenu lui aussi se modifie à chaque perception que je me vois obligé d'établir un lien entre l'observation de l'objet et la modification de mon propre état et de parler de ma représentation. Je perçois la représentation sur mon soi au sens où je perçois la couleur, le son, etc. sur d'autres objets. Je peux aussi faire maintenant cette distinction. J'appelle monde extérieur ces autres objets qui sont face à moi, tandis que je désigne par les mots de monde intérieur le contenu de mon auto-perception. La méconnaissance du rapport entre la représentation et l'objet a provoqué les plus grands malentendus dans la philosophie moderne. On voulut mettre au premier plan la perception d'un changement en nous, la modification qu'éprouve mon soi, et l'objet qui provoque cette modification fut entièrement perdu de vue. On a dit « nous ne percevons pas les objets, mais seulement nos représentations ». Je ne saurais rien de la table en soi qui est l'objet de mon observation, mais je connaîtrais seulement la modification qui se produit en moi tandis que je perçois la table. Il ne faut pas confondre cette vision des choses avec celle de Berkeley, qui était mentionnée plus haut. Berkeley affirme la nature subjective de mon contenu de perception. Mais il ne dit pas que je ne puisse savoir quelque chose que de mes représentations. Il limite mon savoir à mes représentations parce qu'il est d'avis qu'il n'y a pas d'objet en dehors de l'activité de représentation. Ce que je considère comme la table n'existe plus au sens de Berkeley dès que je n'y dirige plus mon regard. C'est pourquoi Berkeley fait naître mes perceptions directement du pouvoir divin. Je vois une table parce que Dieu suscite en moi cette perception. Berkeley ne connaît de ce fait aucun autre être réel que Dieu et les esprits humains. Ce que nous appelons le monde n'existe qu'à l'intérieur des esprits. Ce que l'homme naïf appelle monde extérieur, nature corporelle, n'existe pas pour Berkeley. À ce point de vue s'oppose le point de vue kantien, aujourd'hui prédominant, qui ne limite pas notre connaissance du monde à nos représentations pour la raison qu'il est persuadé qu'il ne peut exister nulle chose en dehors de ses représentations, mais parce qu'il croit que nous sommes organisés de façon telle que nous ne pouvons connaître que les modifications de notre être propre et non les choses en soi qui produisent ces modifications. Du fait que je ne connais que mes représentations, il ne déduit pas qu'il n'y a pas d'existence indépendante de ces représentations, mais seulement que le sujet ne peut accueillir immédiatement en soi cette existence. Entre guillemets, ne peut l'imaginer, la forger, la penser, la connaître, peut-être même ne pas la connaître, autrement que par le médium de ses pensées subjectives. Otto Liebmann, zur Analysis der Wirklichkeit, 1880. Cette vision des choses croit dire quelque chose d'absolument certain, quelque chose qui paraît immédiatement évident en l'absence de toute preuve. Entre guillemets, le premier principe fondamental dont le philosophe doit prendre clairement conscience consiste en la connaissance de ce que notre savoir ne s'étend dans un premier temps à rien d'autre qu'à nos représentations. Nos représentations sont la seule chose dont nous fassions l'expérience immédiate, que nous éprouvions immédiatement. Et précisément, parce que nous en faisons l'expérience immédiate, même le doute le plus radical ne peut pas nous arracher le savoir de ces représentations. En revanche, le savoir qui porte sur ce qui va au-delà de notre activité de représentation, je prends ici partout cette expression au sens le plus large, si bien qu'elle inclut tout ce qui se passe dans l'âme, n'est pas à l'abri du doute. C'est pourquoi il faut, au début de l'activité du philosophe, poser expressément comme susceptible d'être mis en doute tout savoir concernant ce qui va au-delà des représentations. Johannes Volkelt, Immanuel Kant, Bekenntnistheorie, 1879. C'est par ces mots que Volkelt commence son livre « La théorie de la connaissance » d'Immanuel Kant. Mais ce qui est représenté en ces termes, comme si c'était une vérité immédiate et évidente, est en réalité le résultat d'une opération de pensée qui se déroule de la manière suivante. L'homme naïf croit que les objets, tels qu'il les perçoit, existent aussi en dehors de sa conscience. La physique, la physiologie et la psychologie semblent toutefois enseigner que notre organisation est nécessaire pour que nous ayons des perceptions et qu'en conséquence, nous ne pouvons avoir aucun savoir de rien, sauf de ce que notre organisation nous transmet des choses. Nos perceptions sont de ce fait des modifications de notre organisation et non des choses en soi. Edouard von Hartmann a caractérisé le raisonnement indiqué ici comme une démarche de pensée devant conduire à ce que l'on soit convaincu du principe que nous ne pouvons avoir de savoir immédiat que de nos représentations. Parce que nous trouvons à l'extérieur de notre organisme des vibrations des corps et de l'air qui se présentent à nous sous la forme du son, on en déduit que ce que nous appelons son n'est rien d'autre qu'une réaction subjective de notre organisme à ses mouvements dans le monde extérieur. On trouve de la même manière que la couleur et la chaleur ne sont que des modifications de notre organisme. Et plus précisément, on est d'avis que ces deux sortes de perceptions sont provoquées en nous par les effets de processus du monde extérieur qui sont entièrement différents de ce qui est expérience de la chaleur ou expérience de la couleur. Quand ces processus excitent mes nerfs cutanés, j'ai la perception subjective de la chaleur. Quand ces processus touchent le nerf optique, je perçois de la lumière et de la couleur. Lumière, couleur et chaleur sont donc ce par quoi mes nerfs sensitifs répondent aux stimulus venus de l'extérieur. Le sens du toucher, lui non plus, ne me transmet pas les objets du monde extérieur, mais seulement mes propres états. Au sens de la physique moderne, on pourrait penser que les corps consistent en parties infiniment petites, les molécules, et que ces molécules ne sont pas immédiatement contiguës les unes aux autres, mais sont à une certaine distance les unes des autres. Il y a donc entre elles un espace vide. Elles agissent les unes sur les autres par-delà ces distances au moyen de forces d'attraction et de répulsion. Lorsque j'approche ma main d'un corps, les molécules de ma main ne touchent en aucune façon directement celles du corps. Mais il reste une certaine distance entre le corps et la main, et ce que je ressens comme la résistance du corps n'est rien d'autre que l'effet de la force de répulsion que ces molécules exercent sur ma main. Je suis tout simplement à l'extérieur du corps et je perçois seulement son effet sur mon organisme. La théorie de ce qu'on appelle les énergies sensorielles spécifiques, qu'a élaboré Johannes Müller, vient compléter ces réflexions. Elle consiste en ceci que chaque sens a la particularité de ne réagir que d'une façon déterminée à tous les stimuli extérieurs. Si une action s'exerce sur le nerf optique, il naît une perception de lumière, et il est alors indifférent que l'excitation se produise par ce que nous appelons lumière, ou qu'une pression mécanique ou un courant électrique vienne agir sur le nerf. Par ailleurs, des perceptions différentes sont suscitées par des sens différents, par les mêmes stimuli extérieurs. Il semble en découler que nos sens ne peuvent transmettre que ce qui se passe en eux-mêmes, mais rien du monde extérieur. Ils déterminent les perceptions en fonction de leur nature. La physiologie nous apprend qu'il ne peut être question d'un savoir direct de ce que les objets produisent dans nos organes des sens. Lorsque le physiologiste étudie les phénomènes qui se déroulent dans notre corps, il trouve que, dès les organes des sens, les effets du mouvement extérieur sont modifiés de la façon la plus variée. C'est pour l'œil et pour l'oreille que nous voyons cela le plus nettement. Tous deux sont des organes très complexes qui modifient fondamentalement l'excitation extérieure avant de l'acheminer au nerf correspondant. Depuis l'extrémité périphérique du nerf, l'excitation, à présent déjà modifiée, est ensuite acheminée jusqu'au cerveau. C'est ici seulement qu'à leur tour, les organes centraux doivent être excités. On en conclut que le phénomène extérieur doit passer par une série de transformations avant de parvenir à la conscience. Ce qui se déroule là dans le cerveau est relié au processus extérieur par un si grand nombre de processus intermédiaires qu'on ne peut plus envisager de ressemblance avec celui-ci. Ce que le cerveau transmet pour finir à l'âme, ce ne sont ni des processus extérieurs, ni des processus qui se déroulent dans les organes des sens, mais seulement des processus qui se déroulent à l'intérieur du cerveau. Mais même ces derniers, l'âme ne les perçoit pas encore directement. Ce que nous avons finalement dans notre conscience, ce ne sont pas du tout des processus cérébraux, mais des sensations. Ma sensation de rouge n'a absolument aucune ressemblance avec le processus qui se déroule dans le cerveau lorsque je ressens le rouge. Celui-ci n'apparaît à son tour qu'en tant qu'effet en l'âme et n'est causé que par le processus cérébral. C'est pourquoi Hartmann dit « Ce que le sujet perçoit, ce ne sont jamais que des modifications de ses propres états psychiques et rien d'autre. » Quand j'ai les sensations, il y a toutefois encore un long chemin, jusqu'à ce qu'elles se regroupent pour former ce que je perçois en tant que chose. C'est qu'en effet, seules des sensations isolées les unes des autres peuvent m'être transmises par le cerveau. Les sensations de dureté et de mollesse me sont transmises par le sens du toucher, les sensations de couleur et de lumière par le sens de la vue. Pourtant, ces sensations sont réunies dans un seul et même objet. Il faut donc encore que cette réunion soit opérée par l'âme elle-même. C'est-à-dire que c'est l'âme qui rassemble les sensations isolées transmises par les sens pour en faire des corps. Mon cerveau me transmet isolément les sensations de la vue, du toucher et de l'ouïe, et ceci par des voies totalement différentes, et l'âme les assemble ensuite pour en faire la représentation de trompette. Ce maillon final, représentation de la trompette, d'un processus est ce qui, pour ma conscience, est donné en tout premier lieu. On ne peut plus rien y trouver de ce qui est en dehors de moi et qui a fait originellement une impression sur mes sens. L'objet extérieur a été totalement perdu sur le chemin qui mène au cerveau et par le cerveau à l'âme. Il sera difficile de trouver dans l'histoire de la vie spirituelle de l'humanité un deuxième édifice de pensée qui ait été assemblé avec une plus grande sagacité et qui pourtant tombe en néant lorsqu'on l'examine avec quelque précision. Regardons donc de plus près quelle en est la genèse. On part tout d'abord de ce qui est donné à la conscience naïve, de la chose perçue. Puis, on montre que tout ce qui se trouve dans cette chose n'existerait pas pour nous si nous n'avions pas de sens. Pas d'œil, pas de couleur. Donc la couleur n'est pas encore présente dans ce qui agit sur l'œil. Elle ne naît que par l'interaction de l'œil et de l'objet. Celui-ci est donc sans couleur. Mais dans l'œil non plus la couleur n'est pas présente, car il y a là un processus chimique ou physique qui doit d'abord être transmis au cerveau par le nerf et qui là en déclenche un autre. Celui-ci n'est toujours pas la couleur. Celle-ci n'est suscitée en l'âme que par le processus cérébral. Là, elle ne parvient encore et toujours pas à ma conscience. Mais il faut d'abord qu'elle soit placée par l'âme sur un corps à l'extérieur. C'est sur celui-ci que je crois enfin l'apercevoir. Nous avons parcouru un cercle complet. Nous avons pris conscience d'un corps coloré. C'est le premier pas. Puis commence l'opération de la pensée. Si je n'avais pas Dieu, le corps serait pour moi sans couleur. Je ne peux donc pas placer la couleur dans le corps. Je me mets en quête de celle-ci. Je la cherche dans l'œil, en vain, dans le nerf, en vain, dans le cerveau, tout autant en vain, dans l'âme. Ici, je la trouve, certes, mais pas liée au corps. Je ne retrouve le corps coloré que là d'où je suis parti. Le cercle est fermé. Je crois reconnaître comme une production de mon âme ce que l'homme naïf pense existant dans l'espace au-dehors. Aussi longtemps qu'on en reste là, tout semble aller pour le mieux. Mais il faut reprendre toute l'affaire depuis le début. Je ne me suis jusqu'à maintenant occupé que d'une chose, de la perception extérieure dont j'ai eu précédemment, en homme naïf que j'étais, une opinion entièrement fausse. J'étais d'avis qu'elle avait une existence objective telle que je l'apercevais. Je m'aperçois maintenant qu'elle disparaît avec mon activité de représentation, qu'elle n'est qu'une modification des états de mon âme. Ai-je encore même le droit de partir d'elle dans mes réflexions? Puis-je dire d'elle qu'elle agit sur mon âme? Il me faut désormais considérer elle-même comme une représentation, cette table même dont j'ai cru précédemment qu'elle exerce sur moi une action et qu'elle produit en moi une représentation d'elle-même. Mais il s'ensuit alors que mes organes des sens aussi et que les processus qui s'y déroulent ne sont que subjectifs. Je n'ai aucun droit de parler d'un œil réel, mais seulement de ma représentation de l'œil. Il en est de même de la transmission nerveuse et du processus cérébral, et tout autant du processus interne à l'âme, même par lequel des objets sont censés être construits à partir du chaos des multiples sensations. Si, en présupposant que mon premier cheminement circulaire de pensée était exact, je reprends l'un après l'autre tous les maillons de mon acte de connaissance, ce dernier s'avère être un tissu inconsistant de représentations qui, en tant que telles, ne peuvent tout de même pas agir les unes sur les autres. Je ne peux pas dire « ma représentation de l'objet agit sur ma représentation de l'œil » et de cette interaction surgit la représentation de la couleur. Mais je n'en ai pas non plus le besoin, car dès qu'il est clair pour moi que mes organes des sens et leur activité Le processus qui se déroule dans mes nerfs et dans mon âme ne peuvent eux aussi m'être donnés que par la perception, le cheminement de pensée qui a été décrit se révèle dans ce qu'il a de totalement impossible. Il est vrai que pour moi, aucune perception n'est donnée sans l'organe des sens correspondant. Mais un organe des sens est tout aussi peu donné sans perception. Je peux passer de ma perception de la table à l'œil qui la voit, au nerf cutané qui la tâte, mais ce qui se passe en ceci, je ne peux de rechef l'apprendre que de la perception. Et je remarque alors bientôt que dans le processus qui se déroule dans l'œil, il n'y a pas la moindre trace de ressemblance avec ce que je perçois en tant que couleur. Je ne peux pas anéantir ma perception de couleur en mettant en évidence le processus qui se déroule dans l'œil pendant cette perception. Je retrouve tout aussi peu la couleur dans les processus des nerfs et du cerveau. Je ne fais que relier de nouvelles perceptions à l'intérieur de mon organisme à la première, que l'homme naïf place à l'extérieur de son organisme. Je ne fais que passer d'une perception à une autre. En outre, tout le raisonnement contient un hiatus. Je suis en mesure de suivre tout ce qui se passe dans mon organisme jusqu'au processus dans mon cerveau, même si mes suppositions deviennent toujours plus hypothétiques au fur et à mesure que je m'approche des processus centraux du cerveau. La voie de l'observation extérieure cesse avec ce qui se passe dans mon cerveau, en fait, avec le processus que je percevrais si je pouvais traiter le cerveau avec des procédés et des méthodes physiques, chimiques, etc. La voie de l'observation intérieure commence avec la sensation et va jusqu'à la construction des choses à partir du matériau de la sensation. Au moment du passage du processus cérébral à la sensation, le chemin accessible à l'observation est interrompu. Le mode de pensée caractérisé, qui par opposition au point de vue de la conscience naïve, que ce mode de pensée appelle réalisme naïf, se donne le nom d'idéalisme critique, comme est la faute de caractériser comme représentation une seule des perceptions, mais prend précisément l'autre dans le sens où le fait le réalisme naïf qu'il croit avoir réfuté. Il veut démontrer le caractère de représentation des perceptions en prenant naïvement pour des faits ayant valeur objective les perceptions concernant son propre organisme et en négligeant de surcroît le fait qu'il mêle deux domaines d'observation entre lesquels il ne peut pas trouver de médiation. L'idéalisme critique ne peut réfuter le réalisme naïf qu'en reconnaissant lui-même, à la façon des réalistes naïfs, une existence objective à son propre organisme. À l'instant même où il prend conscience que les perceptions de son propre corps sont de même nature que les perceptions auxquelles le réalisme naïf reconnaît une existence objective, il ne peut plus s'appuyer sur celle-là comme sur un fondement sûr. Il lui faudrait aussi considérer son organisation subjective comme un simple complexe de représentation. Mais on perd de ce fait la possibilité de penser que le contenu du monde perçu est produit par l'organisation spirituelle. Il faudrait admettre que la représentation couleur n'est qu'une modification de la représentation œil. Le prétendu idéalisme critique ne peut être prouvé que grâce à un emprunt au réalisme naïf. Ce dernier n'est réfuté que si l'on admet sans examen que ses propres présupposés sont valables dans un autre domaine. Il en découle avec certitude ceci. L'idéalisme critique ne peut être prouvé par des recherches faites à l'intérieur du domaine des perceptions, et la perception ne peut de ce fait être dépouillée de son caractère objectif. On peut encore moins présenter la proposition « le monde perçu est ma représentation » comme évidente par elle-même et n'ayant besoin d'aucune preuve. Schopenhauer commence en ces termes son ouvrage principal « Le monde comme volonté » et comme représentation. Le monde est ma représentation. Cette proposition est une vérité pour tout être vivant et pensant, bien que chez l'homme seul, elle arrive à se transformer en connaissance abstraite et réfléchie. Dès qu'il est capable de l'amener à cet état, on peut dire que l'esprit philosophique est né en lui. Il possède alors l'entière certitude de ne connaître ni un soleil ni une terre, mais seulement un œil qui voit ce soleil, une main qui touche cette terre. il sait en un mot que le soleil dont il est entouré n'existe que comme représentation dans son rapport avec un être percevant, qui est l'homme lui-même. S'il est une vérité que l'on puisse affirmer a priori, c'est bien celle-là, car elle exprime le mode de toute expérience possible et imaginable, concept de beaucoup plus général que ceux même de temps, d'espace et de causalité qu'il implique. Toute cette phrase achoppe sur le point exposé déjà plus haut par moi, que l'œil et la main ne sont pas moins des perceptions que le soleil et la terre. Et on pourrait, au sens de Schopenhauer, et en adoptant sa formulation, opposer à ses propositions, mon œil qui voit le soleil et ma main qui sent la terre sont mes représentations, exactement comme le soleil et la terre eux-mêmes. Mais que j'annule par là cette proposition est clair d'emblée. Car seul mon œil réel et ma main réelle pourraient avoir en eux les représentations de soleil et de terre, qui seraient leurs propres modifications, mais non mes représentations œil et main. Or, c'est de celles-ci seulement que l'idéalisme critique est fondé à parler. L'idéalisme critique est totalement inapte à se faire une opinion sur le rapport entre perception et représentation. Il ne peut pas opérer la dissociation indiquée entre ce qui se produit dans la perception pendant le percevoir et ce qui doit déjà être en elle avant qu'elle ne soit perçue. Il faut donc pour cela s'engager sur un autre chemin.